Alléluia.
Alléluia.
La présence du Seigneur est là.
Amen. Alléluia.
Et lorsque le Seigneur est là, c'est toujours pour faire quelque chose. Alléluia. C'est toujours pour se manifester à nous, nous toucher et nous attirer toujours plus près de lui. Nous avons médité pendant ces quelques réunions sur la croix de notre Seigneur Jésus, ce qui s'est passé avant la croix, les visitations que le Seigneur a opérées auprès de ses disciples qui avaient besoin d'être soutenus, d'être encouragés. Le Seigneur ne pouvait pas monter au ciel sans avoir donné des certitudes à ses disciples, n'est-ce pas vrai? Il ne pouvait pas partir comme cela. Il est resté 40 jours avec ses disciples. Il fallait que l'œuvre soit profonde, indéracinable. Il fallait qu'il ait forgé des hommes et des femmes qui aient saisi le message, qui aient cru le message et qui seront prêts à communiquer ce message jusqu'à donner leur vie pour le maître. Et c'est à cause de telle personne, de tel serviteur de Dieu que nous avons maintenant le message de Dieu,
amen.
La vérité.
Amen.
Merci Seigneur. Alléluia. Donc, soyons, nous sommes fiers d'eux, mais qu'ils soient aussi fiers de nous.
Amen.
Alléluia.
Amen.
Et maintenant, nous en arrivons à un point où le Seigneur est prêt de partir. Les 40 jours sont terminés. Nous arrivons dans les derniers instants. Le Maître va monter au ciel. Et là encore, jusqu'au dernier moment, il enseigne ses disciples. Mais maintenant, il n'est plus question de venir consoler, relever, le travail a été fait. On n'est pas relevé constamment, continuellement. Il y a certains problèmes qui doivent être résolus dans notre vie. Je ne veux pas dire qu'on n'a plus de problèmes, mais les problèmes de base qui paralysent notre vie doivent être réglés une fois pour toutes. Amen.
Amen.
Mais il y en a qui sont constamment avec des problèmes de base dans leur vie spirituelle. Et ils n'arrivent pas à s'en sortir. Une fois que ces problèmes sont réglés, le Seigneur peut partir. Maintenant, ce qui importe, c'est que ses disciples, ses apôtres, ses enfants deviennent des instruments de bénédiction. Amen. Alors le message de cet après-midi pour conclure, comment devenir un instrument de bénédiction. Nous en arrivons là.
Amen.
Comment devenir des instruments de bénédiction? Et le Seigneur veut utiliser chacun d'entre nous.
Amen.
Tout le monde ne sera pas prédicateur. Tout le monde ne partira pas sur le champ missionnaire. Ne dites pas, moi je ne suis pas appelé pour la mission, je ne suis pas appelé pour devenir un pasteur ou un prédicateur ou un évangéliste, ça ne me concerne pas. Ce n'est pas pour moi. Nous sommes tous appelés à servir Dieu. Nous sommes tous à plein temps avec le Seigneur.
Amen.
Certains sont dans le ministère à plein temps, mais nous sommes tous à plein temps.
Amen.
Nous sommes des chrétiens à plein temps.
Amen.
Et d'une manière ou d'une autre, nous devons servir le Seigneur.
Amen.
Nous avons tous reçu au moins un talent. Vous êtes d'accord avec moi? Lorsque nous acceptons le Seigneur, nous recevons au moins un talent. Si vous dites que vous n'avez pas de talent, alors il faut vous convertir. Vous n'êtes pas converti. Mais dites, je suis converti, qu'est-ce que vous racontez? Alors si tu es converti, tu as au moins un talent. Tu as au moins un talent. Et quand le Seigneur vient, est-ce qu'il vient les mains vides? Dites-moi, il ne vient jamais les mains vides. C'est pourquoi chacun d'entre nous, nous avons au moins un talent. Au moins un talent. Et un jour, il vous redemandera compte de ce talent, ne l'oubliez pas. Et vous savez avec qui le Seigneur a eu le plus de difficultés, vous savez avec qui? Il a donné à l'un un, à l'autre deux, et à l'autre cinq. Celui qui en avait cinq, il les a fait valoir, il en a eu dix. L'autre qui en avait deux, il les a fait valoir, il en a eu quatre. Mais celui qui en avait un, il a dit, c'est pas possible, un c'est pas suffisant pour moi. Le maître, il s'est moqué de moi, là. Enfin, si, là. J'ai cru quand même. Alors, qu'est-ce qu'il est allé faire? Il est allé cacher son talent. Hein? Il est allé cacher son talent. Ou sa mine. Dans une autre version, il est dit aussi sa mine. Il est allé enterrer sa mine. Comme il enterre sa mine, c'est pas étonnant qu'il ait une mine d'enterrement. Voilà pourquoi certains chrétiens ont des mines d'enterrement, parce qu'ils ont enterré leur mine. Et puis, vous savez, ils sont formidables pour ça, ils savent bien enterrer. Il dit, jamais vous le trouverez, c'est pas possible, vous ne trouverez pas. De peur qu'on vienne déterrer leur talent. Et voilà pourquoi certains ont des mines d'enterrement. Ils ont enterré leur mine. Mais le Seigneur a été très sévère à ceux qui cachent leur talent. Nous devons veiller. Si tu as reçu un talent et que tu es fidèle dans ce que Dieu t'a donné, ce talent peut devenir deux talents. Les deux peuvent devenir quatre. Les quatre, huit. Et les huit, 16. Amen. Tu peux même dépasser celui qui a cinq talents. Parce que lui, il peut bien commencer et puis après bien mal terminer. Il en est peut-être arrivé à 500. Mais toi, si tu es fidèle, tu peux arriver à 10 000. Tu peux le dépasser.
Amen.
D'ailleurs, c'est une bonne chose de commencer avec un talent. Il vaut mieux toujours commencer petit avec le Seigneur. Il y en a pour commencer, pour faire quelque chose, il leur faut des visitations d'anges. Il faut que le ciel s'ouvre, que Dieu vienne leur parler directement pour qu'ils aient un ministère. Sinon, ils ne font rien du tout. Qu'est-ce que tu fais, toi? Moi, je ne fais rien. Moi, j'attends. Ils ont le ministère de chauffer les bancs de l'église. Un autre ministère, ça. Le ministère de chauffer les bancs. Pour ça, ils sont fidèles. Ah, ils les chauffent bien. Ça chauffe bien. Ils sont toujours là. Ils sont fidèles à ça. Mais il n'y a rien. Le Seigneur t'a confié une tâche. Nous aurons des contrats à rendre. Que le Seigneur puisse nous dire, cela va bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Avez-vous remarqué, ça m'a frappé, dans cette, c'est une petite parenthèse que je vous fais là. Mais quand le Seigneur a dit à celui qui en avait cinq et qu'il a mis ses talents bien au service du Seigneur, le Seigneur lui dit à la fin, cela va bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses. Même celui qui avait reçu beaucoup, Dieu lui dit que tu as reçu peu. Aux yeux de Dieu, c'est peu. Aux yeux des hommes, c'est peut-être beaucoup, mais aux yeux de Dieu, c'est peu. Alors nous n'avons pas à nous vanter de quoi que ce soit, n'est-ce pas vrai? Même celui qui a beaucoup aux yeux des hommes, aux yeux de Dieu, c'est peu. Donc nous n'avons pas à nous vanter de quoi que ce soit. Nous avons un talent, il faut absolument que ce talent soit mis au service de Dieu. Amen. Et maintenant, voyons ces instruments que nous devons être. Comment devenir des instruments? Vous allez me dire, mais comment? Car un jour, nous aurons des comptes à rendre, nous aussi. Non pas pour être sauvés. Si nous sommes rachetés, nous sommes sauvés, n'est-ce pas? Sauvés par grâce. Mais pour les récompenses, ce sera une autre affaire. Pour les récompenses, ce sera une autre affaire. Nous devons faire quelque chose et ne pas nous présenter devant notre Père Céleste, rien à la main. Mais que nous ayons tous un bouquet à présenter au Seigneur.
Amen.
Amen. Un bouquet de notre consécration, de notre amour pour lui, de ce que nous avons fait pour lui. Quelle honte de nous présenter devant lui. Je suis sauvé, Seigneur, moi seul. Voilà. Il n'y a rien, j'ai rien du tout à t'apporter. Quelle honte. On est sauvé comme au travers du feu. Mais le Seigneur veut plus que cela. Amen.
Amen.
Le Seigneur a des ambitions à ton égard. Il veut faire quelque chose. Mais tu dis, mais je ne suis rien. Mais il utilise ceux qui ne sont rien. Il utilise ceux qui ne sont rien. Si tu étais quelque chose, il devrait travailler en toi jusqu'à ce que tu ne deviennes rien. Mais je suis faible. Mais le Seigneur utilise les faibles. C'est les faibles. C'est au travers du canal de notre faiblesse que Dieu agit. Alors il n'y a aucune excuse. Nous sommes tous ici les faibles, n'est-ce pas vrai? Vous l'avez dit 50 000 fois. Eh bien, c'est pour toi. C'est toi que Dieu veut utiliser. Mais je ne sais rien, je ne peux rien. Mais c'est des gens comme ça que Dieu utilise. Dieu utilise des gens comme ça. Ah oui, qu'est-ce que tu racontes? Oulala. Mais moi, j'ai cru que je pouvais trouver une excuse en ce sens-là. Je pensais qu'en disant, Seigneur, je ne suis pas bien parlé. Quand je parle, je bafouille un petit peu. C'est, je ne peux pas. Mais c'est cela que j'utilise.
Amen.
Moïse n'avait-il pas la bouche empâtée un peu?
Ah oui.
Moïse, on pense que c'était un éloquent. Mais il avait de la peine à parler. Et cependant, Dieu l'a utilisé. Amen.
Amen.
Dieu choisit les choses faibles du monde pour confondre les fortes. C'est ainsi que Dieu est le plus glorifié, n'est-ce pas vrai? Quand vous connaissez quelqu'un qui n'est rien du tout, qui ne sait rien, qui est dans une grande faiblesse, et que vous voyez l'Esprit de Dieu sur lui agir d'une manière merveilleuse, vous glorifiez Dieu, n'est-ce pas vrai? Tandis que vous voyez un autre homme qui est là, qui a fait toutes ses études, qui a une éloquence naturelle, et qui peut faire des beaux discours, mais vous ne voyez pas la gloire de Dieu. Vous voyez l'homme. C'est l'homme qui est là. Et Dieu n'est pas glorifié. Cela ne veut pas dire que Dieu n'utilise pas l'éloquence et tout cela, mais cela veut dire que tout le monde doit passer à la croix.
Amen.
Et quoi que ce soit que nous ayons, Amen. Nous devons réaliser notre totale faiblesse.
Amen.
Mais dans notre faiblesse, nous devons nous abandonner au Maître et dire « Je veux te servir, je veux t'être fidèle, je veux te glorifier, je veux être un instrument. » Un instrument, ce n'est pas seulement pour les serviteurs de Dieu. Nous sommes tous au service du Seigneur. Tous.
C'est vrai.
Alors, quels sont ces instruments? Lisons dans Luc 24, les derniers versets. Et nous allons découvrir sept instruments que Dieu veut vous donner pour être utilisés par le Seigneur. Sept instruments divins, efficaces. Pour glorifier le Seigneur et apporter le message libérateur à notre génération. Luc 24, verset 44. Puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes, et dans les psaumes. Alors, il leur ouvrit l'esprit, afin qu'ils comprissent les Écritures. Et il leur dit, ainsi il est écrit, voyez-vous comme il revient, il est écrit, il leur ouvre l'esprit pour comprendre les Écritures, il est écrit, il est écrit, il est écrit que le Christ souffrirait, et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Il les conduisit. Voilà, maintenant on arrive à la fin du ministère terrestre de Jésus, mais c'est le commencement du ministère de l'Église. Il les conduisit jusque vers Béthanie et ayant levé les mains, il les bénit. Pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fut enlevé au ciel. Pour eux, après l'avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem avec une grande joie. Et ils étaient continuellement dans le temple, louant et bénissant Dieu. Amen. Voilà. Le maître s'en va, mais regardez ce qu'il reste derrière lui. Regardez ce qu'il laisse derrière lui. Désormais, des hommes et des femmes poursuivront la tâche qu'il a commencée. Mais quels sont ces instruments? Dans ces versets que nous venons de lire, Jésus leur donne les sept instruments. Il vous les donne aussi cet après-midi. Quels sont ces sept instruments indispensables pour être utilisés par Dieu, qui que nous soyons? Premier instrument, nous l'avons lu au verset 44, 45, c'est la fidélité à la parole de Dieu. Amen. Il vient, il leur dit, c'est là ce que je vous ai dit lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait qu'il que s'accomplisse ce qui est écrit dans la loi de Moïse, voyez-vous, dans les prophètes, dans les psaumes. Alors il ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Et il leur dit, ainsi il est écrit. Nous voyons par là que le Seigneur leur donne un instrument, la parole de Dieu. Mais encore faut-il être fidèle à cette parole, n'est-ce pas vrai? C'est la fidélité à la parole qui va nous permettre d'être utilisés par Dieu. Le plus faible d'entre nous ici, Dieu l'utilisera puissamment si cette personne est fidèle à la parole de Dieu.
Amen.
Attention, la fidélité à la parole de Dieu veut dire que vous serez en contradiction avec des paroles d'hommes, avec des traditions d'hommes, avec des commandements d'hommes, vous serez en contradiction. Parce que la sagesse de Dieu, la parole de Dieu est tout à fait opposée à la pensée des hommes, n'est-ce pas vrai? Êtes-vous prêt à supporter cette contradiction et cette opposition? Les apôtres l'ont été, les premiers chrétiens l'ont été. Amen. Fidélité à la parole de Dieu. Vous devez, je dois résoudre ce problème. Seigneur, je veux être un instrument qui croit en ta parole et qui restera fidèle à ta parole. Je veux être comme un chrétien de béret qui contrôle absolument tout ce que j'entends. Même si c'est un apôtre qui me parle, je dois vérifier ce que l'apôtre dit. Car les chrétiens de Béret, ils vérifiaient l'enseignement de l'apôtre Paul, n'est-ce pas vrai? Et si c'est écrit dans la parole, c'est parce que c'est nécessaire. Moi, je me réjouis quand on contrôle mon enseignement. Je me réjouis. C'est dangereux quand on écoute un enseignement sans vérifier si c'est conforme à la parole de Dieu. C'est très dangereux. Contrôler. Et Paul n'était pas aussi, contrarié lorsque les Béréens vérifiaient son enseignement au contraire. Car ceux qui vérifient l'enseignement des Écritures et qui cherchent à être fidèles seront des chrétiens stables. Amen. Des chrétiens sûrs, des chrétiens qui seront des piliers dans l'Église. Des piliers. Tandis que les autres seront au contraire des instruments de scandale. Des instruments qui produiront beaucoup de difficultés. Amen. Alléluia. Ce ne sont pas ceux qui prêchent la fidélité à la parole qui procurent des divisions. Ce sont ceux qui s'éloignent de la fidélité à la parole qui procurent des divisions. Amen. Bien souvent, c'est ce qu'on dit pour culpabiliser les prédicateurs ou un chrétien qui veut rester fidèle à la parole. Ah oui, mais il ne faut pas dire ça. Ça divise les chrétiens. Comment? Qu'est-ce que c'est qui divise les chrétiens? C'est celui qui est fidèle à la parole qui divise les chrétiens. Ce n'est pas lui qui divise les chrétiens. Celui qui divise les chrétiens, c'est celui qui s'éloigne de la parole. N'est-ce pas vrai? En s'éloignant de la parole, il prêche une autre doctrine, une fausse doctrine. Lui, il divise. Mais maintenant, il ne faut rien dire. On est dans une période où il ne faut rien dire. N'importe qui peut dire n'importe quoi, même dans les églises. Et au nom de l'amour, c'est rien. Seigneur te bénisse. Il n'y a plus rien du tout. Et on gobe n'importe quoi. Mais pour pouvoir vérifier ce qu'on vous prêche, même si c'est un apôtre qui vous prêche, vous devez vous-même connaître votre Bible aussi. Vous devez connaître votre Bible. Les enseignements fondamentaux de la parole de Dieu. Nous ne pouvons pas nous en passer. Amen. Il est important de connaître les vérités fondamentales. Afin que nous puissions tout contrôler par la parole. Est-ce que Dieu peut compter sur moi, sur toi, pour être fidèle à sa parole? Ou est-ce que tu commences déjà à faire des compromis pour faire plaisir à Pierre ou à Paul? Combien ce danger est là? Et combien sont déjà tombés dans ce piège? Et cela attriste le Seigneur. Nous devons veiller. Si tu veux être un instrument de Dieu, ton cœur doit être attaché à la parole. Amen, et à rien d'autre. À rien d'autre. Si tu as peur qu'on vérifie ton enseignement, c'est que dans ton enseignement, il y a peut-être des choses qui ne vont pas très bien. Mais celui qui prêche ta parole, est-ce qu'il a peur? Est-ce qu'il a peur d'être contrôlé? Pas du tout. Au contraire, vous avez en face de vous quelqu'un qui, au moins, aime la parole. Il dit, voilà, il s'intéresse, c'est bien. Oui, j'ai pas bien compris ça, là, ceci. Mais c'est bien, c'est formidable. Tu as quelqu'un, au moins, qui cherche à approfondir sa foi dans la parole, n'est-ce pas vrai? Mais si quelqu'un vous dit, non, tais-toi, tu comprends rien du tout, toi. Oui? Alors ça, c'est dangereux. Premièrement, l'instrument, être fidèle à la parole. Méditons-la, gardons-la, soyons fidèles. Deuxième message, ou deuxième instrument, c'est le message de la croix. Puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse ce qui est écrit. Et qu'est-ce qui était écrit dans la loi de Moïse, des prophètes et des psaumes? Il leur dit, ainsi il est écrit que Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts. Le deuxième instrument pour être utilisé par Dieu, c'est le message de la croix. Amen. Voilà pourquoi Paul a été utilisé. Paul était le prédicateur de la croix. Lui-même le disait, je ne veux savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Ce n'était pas un Christ qui était sur la croix. Quand il parle de Jésus-Christ crucifié, c'est le message de la croix. Son sauveur était ressuscité, mais il prêchait le message de la croix. Car c'est là que Dieu a fait la réconciliation avec les hommes par le sacrifice de son Fils bien-aimé. Amen. Qu'il souffrirait. Si tu veux être un instrument, n'aie pas honte de la croix. Jésus a dit, Paul a dit, je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Alléluia. Et lorsqu'on prêche la croix, il faut réaliser une chose. Jésus a dit sur la croix, tout est accompli. La croix, c'est cela. C'est l'œuvre parfaitement achevée de Jésus-Christ pour le pardon de nos péchés. Il s'est écrié, tout est accompli. Et comme je vous l'ai déjà dit, le mot grec veut dire c'est payé ou c'est fait, c'est parfait, c'est définitivement payé. Il n'y a plus rien à faire définitivement et éternellement. Alléluia. Il n'y a plus rien à ajouter, plus rien à retrancher.
Amen.
Le message de la croix est parfait, complet pour l'éternité. C'est en croyant ce message que les hommes seront délivrés de leurs péchés et de la main de Satan. Et de la main de Satan. Rendez grâce au Père qui vous a délivré de la puissance des ténèbres et qui vous a transporté dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Alléluia. Pardon des péchés, mais aussi délivrance de la main de Satan et de son autorité. Le message de la croix. On ne peut rien ajouter. Et c'est là la grande tentation aujourd'hui.
Alléluia.
Il y a tout un christianisme qui dit « Oui, nous croyons au Seigneur. » Mais à côté de ça, il faut encore faire ses œuvres. Certains disent « Jésus a souffert pour moi. Moi aussi, je dois souffrir pour lui pour être sauvé. » Mais des multitudes croient cela. Des multitudes encore. Et basent leur salut sur leurs souffrances, leurs bonnes œuvres. Ils espèrent qu'avec leurs souffrances, leurs bonnes œuvres, leurs prières, leur argent, leur religion, tout cela, ils espèrent qu'avec toutes ces œuvres-là, ils seront sauvés. Ils n'ont pas compris le message de la croix. On ne peut rien ajouter. On ne peut rien retrancher. Amen. L'œuvre est parfaite. Tu dois être fidèle à cela. Des multitudes se sont déjà égarées dans ce chemin. C'est au pied de la croix que la délivrance a lieu. Alléluia. La religion dit, fais. Fais, fais, et tu seras sauvé. N'est-ce pas vrai? Dans la religion, c'est ça. Même la religion chrétienne, certaines religions. Fais, fais, fais. Tu dois toujours faire quelque chose pour être sauvé. Ça, c'est la religion. Et d'ailleurs, toutes les autres religions dans le monde. Vous avez remarqué, toutes les religions, c'est toujours fait, 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 et un jour, tu seras sauvé. Voilà. Voilà. C'est toujours fait. La religion dit fait. L'évangile dit c'est fait. C'est toute la différence. C'est fait! Tu n'as plus rien à faire.
Alléluia.
Tu dois accepter ce que Dieu a fait. Alléluia. Je n'ai plus rien à faire. Non, tu dois accepter. Tu dois te repentir de tes péchés et accepter ce que Dieu a fait. Il te donne ce salut gratuitement. Attention, il est gratuit, mais il n'est pas bon marché. Beaucoup de gens confondent le salut gratuit et un salut bon marché. Il pense que, puisque le salut est gratuit, il est bon marché. C'est une grave erreur. Il est gratuit parce que tu ne pourras jamais le payer. Voilà pourquoi il est gratuit. Parce que tu ne pourras jamais payer. Le salut d'une âme coûte trop cher, nous dit la parole de Dieu. Elle n'aura jamais lieu. Voilà pourquoi il est gratuit, parce que tu ne pourras jamais le payer. Mais qu'est-ce que je dois faire? Je ne dois pas me morfondre un petit peu, marcher à genoux? Je ne dois pas me flageller un petit peu? Je ne dois pas jeûner un petit peu? Si je jeûne 40 jours, est-ce que ça ne marchera pas? Allez, 41 jours, je vais jeûner. Encore un jour, je vais mettre encore un jour si vous voulez. Je vais 42. Est-ce que ça marche? Ça ne marchera jamais. Tu ne peux rien faire. Tout est accompli. Amen. Tu n'as rien ajouté. L'œuvre est parfaite. Amen. Ainsi, veillons à garder ce message de la croix. Il est gratuit pour nous. Mais il a coûté tout au Fils de Dieu, n'est-ce pas vrai? Il est gratuit pour nous. Mais la Bible dit que nous avons été rachetés à un grand prix. Gratuit pour moi, pour toi. Parce qu'on ne pouvait pas le payer. Mais pour que ce salut se réalise, Jésus a payé un grand prix. Nous avons été rachetés à un grand prix par le sang précieux de Jésus. C'est cela le message qui pardonne les péchés, qui délivre l'homme des ténèbres et de la perdition éternelle. Quel message! Alléluia! Le message de la grâce, le message du pardon gratuit. Alléluia! Le diable fera tout pour pervertir ce message d'une manière ou d'une autre. Soyons fidèles et Dieu nous utilisera. Dieu t'utilisera. Mais ne cherche pas à mériter quoi que ce soit. Tu ne le mériteras jamais. Troisième instrument. Au verset 47, il est dit, « Et qu'il ressuscitera des morts le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations. » Troisième instrument, c'est le changement de vie, la repentance. Quand on a compris la croix, on ne peut pas rester les mêmes personnes. Nous comprenons que c'est notre péché qui a crucifié le Seigneur. Et lorsque nous croyons en lui comme notre sauveur, alors nous abandonnons notre péché. Quelqu'un qui dit qu'il a compris le message de la croix et qui vit encore la même vie sans changement radical dans ses pensées, dans ses paroles, dans ses actions, dans ses fréquentations. Qu'il n'y a aucun changement, toujours le même, religieux à l'église, mais en dehors de l'église, il vit comme un païen. Celui-là ne connaît pas le message de l'évangile. Et prêcher la repentance, Jésus voulait dire par là, que ma mort sur la croix doit produire des changements dans la vie des hommes. Amen. Si je suis mort pour le péché, c'est afin que les hommes confessent leur péché, l'abandonnent et le haïssent. Amen. C'est à ce prix-là que nous pouvons vraiment être pardonnés. Aujourd'hui, nous n'aimons pas beaucoup parler de péché. Le péché qui est cette rébellion contre Dieu, cette désobéissance de la loi divine. Vous savez qu'il y a des livres même chrétiens. Des livres chrétiens. Un certain auteur américain qui prêche un peu de partout dit que le péché n'est pas, c'est pas quelque chose, c'est pas la désobéissance à Dieu. Le péché, c'est le manque d'estime de soi. Voilà ce qu'on prêche. Que le péché, c'est le manque d'estime de soi. Et si les gens arrivent à s'estimer plus, alors ils verront que ça ira mieux. Et le péché n'existera plus. Mais c'est ce qu'on prêche. C'est ce que certains prêchent. On s'est complètement égaré. Et ces livres pénètrent dans nos milieux, mes amis, si nous ne faisons pas attention. Le péché, un manque d'estime de soi. Le péché est la désobéissance à la parole de Dieu. Et l'homme doit réaliser cela. Le message de la croix, c'est cela. C'est d'un changement radical de vie. Amen. Alléluia. Mais d'abord, il faut que ta vie soit changée. Je ne veux pas dire que tu dois être parfait. Mais il faut au moins que tu puisses dire dans ta vie, autrefois, j'étais aveugle. Et maintenant, je vois. Amen. Autrefois, j'étais dans les ténèbres. Maintenant, je suis dans la lumière. Autrefois, j'étais perdu. Et maintenant, je suis sauvé par la grâce de Dieu. Et maintenant, tu dois montrer par ta vie que tu es un chrétien. Que tu as changé, que ton regard a changé, tes paroles ont changé, tes gestes ont changé, que tu changes à l'égard de ta femme, que tu changes à l'égard de ton mari, que tu changes à l'égard de tes parents, qu'il y a un changement. C'est ainsi que Dieu fait son œuvre, par la parole, par l'esprit, mais aussi par des vies transformées.
Amen.
Alléluia. Quelqu'un dit un jour, moi je lis tous les jours la Bible, en voyant cette chrétienne passer, elle vit tellement sa Bible que je vois la Bible vivante devant moi. Quel beau témoignage. Quel beau témoignage. Simplement par notre comportement, déjà, nous pouvons faire un beau travail et pouvons être des instruments. Amen.
Amen.
Tu ne sais pas bien parler, mais tu peux très bien vivre convenablement.
Amen.
Tu peux avoir un témoignage qui glorifie le Seigneur. Et tu verras que tu auras des occasions de parler si tu vis ta vie comme
Amen.
Le Seigneur veut que tu la vives.
Amen.
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 Alléluia. Pas un changement radical dans ta vie. Tu n'es pas un chrétien. Tu n'es pas régénéré. C'est pas possible. Quand l'Esprit de Dieu vient, quand se repent, un changement a lieu. Pourquoi un changement a lieu? Parce qu'on désire ce changement. Amen. Certains ne changent pas. Vous savez pas pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas changer. Ils veulent devenir chrétiens sans changer. Regardez la contradiction. Regardez la contradiction. Ils veulent devenir chrétiens mais sans changer. Ils veulent simplement aller au ciel et ne pas aller en enfer. C'est tout. Mais ici-bas, ils veulent pas changer. Si tu ne veux pas changer, tu ne changeras jamais. Et tu ne risques pas d'aller au ciel. Vous dites, c'est sérieux tout ce que vous dites? C'est très sérieux. Très sérieux. Mais il fallait que les apôtres soient sérieux avec leur message. Soyons sérieux aussi. Amen.
Amen.
Mais tu verras que Dieu sera avec toi. Le Seigneur sera avec toi. Quatrième instrument. Le quatrième instrument. Et il leur dit, allez, vous serez mes témoins, tout cela. Restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Le Seigneur savait que ses disciples avaient besoin de la puissance du Saint-Esprit. Quatrième instrument, la puissance du Saint-Esprit, le revêtement de puissance. Nous en avons besoin de ce baptême dans le Saint-Esprit. Nous en avons besoin. Non seulement nous avons besoin d'être baptisés dans le Saint-Esprit, mais nous avons besoin d'être continuellement renouvelés dans la vie de l'Esprit. Certains sont baptisés dans le Saint-Esprit, glorifient Dieu en langue et tout, mais leur vie est vide aussi. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Ils ne sont pas restés remplis de l'Esprit. Tu dois rester rempli de l'Esprit. C'est dans cette mesure-là que tu pourras faire l'œuvre de Dieu. C'est beaucoup plus facile quand c'est l'Esprit de Dieu qui agit. Amen. Quand l'Esprit de Dieu est là, l'œuvre se fait beaucoup plus facilement. Il y a des combats, bien sûr, mais c'est Dieu qui fait l'œuvre. C'est lui qui est à l'œuvre. Et toi, dans un sens, tu contemples l'action de Dieu. Alléluia. Et tu as besoin d'être rempli de l'Esprit.
Amen.
Tu as besoin d'être rempli de l'Esprit, de rester rempli de l'Esprit. Et comment rester rempli de l'Esprit? Dieu nous donne un moyen maintenant. Comment? Cinquième instrument. Nous arrivons au cinquième instrument. Il les conduisit vers Béthanie, et ayant levé les mains, il les bénit. Pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux, et il fut enlevé au ciel. Pendant, pour eux, après l'avoir, qu'est-ce que vous avez dans vos Bibles? Ah! Adoré. Voilà, les disciples deviennent des adorateurs. En l'adorant, nous voyons qu'ils ont bien compris que Jésus est Dieu, n'est-ce pas vrai? Ils ont bien compris, parce qu'on doit adorer que Dieu seul, n'est-ce pas vrai? Donc s'ils l'adorent, ils ont compris que Jésus est Dieu, et que tout ce qu'il a dit est la vérité. Donc ils l'ont adoré. Alors voilà le cinquième instrument. Si nous voulons bien servir les hommes, nous devons d'abord être un adorateur du Seigneur, de Dieu. Amen. Avant d'être un serviteur, nous devons d'abord être des adorateurs.
Amen.
Après l'avoir adoré. C'est pourquoi dans nos conventions, nous adorons beaucoup le Seigneur. Et si quelqu'un pense dans son cœur, ils adorent un peu trop cela. J'ai l'impression qu'ils n'ont pas compris grand-chose. Celui qui parle comme cela, c'est lui qui n'a rien compris. Parce qu'on doit d'abord exercer son premier ministère.
Amen.
Et le premier ministère, c'est d'abord d'adorer Dieu.
Amen.
Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. D'abord Dieu.
Amen.
Si tu veux te tenir debout devant les hommes, tu dois d'abord te tenir à genoux devant ton Dieu.
Amen.
Dans l'adoration. Passer du temps à adorer, sincèrement.
Amen.
Et tous ceux qui l'ont fait ici pendant cette convention, sincèrement, qui ont vraiment adoré, ils ne sont pas les mêmes personnes. Chacun peut rendre témoignage qu'ils ont été renouvelés, fortifiés, de nouveau remplis du Saint-Esprit. Amen.
Amen.
Et cela, pas seulement un prédicateur, mais chaque chrétien peut dire cela. Nous les voyons après, remplis. On se part remplis, ils disent, remplis. Quelle consolation pour nous. Et on part remplis. Ce n'est pas du vin. Dieu a utilisé ce moyen. Dieu a ordonné ce moyen pour rester rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Sois un adorateur. Veux-tu être un instrument? Veux-tu être un bon serviteur? Il faut que tu sois un bon adorateur de Dieu.
Amen.
Si tu n'es pas un bon adorateur, tu seras vide quand tu te présenteras devant les hommes. Tu seras comme une batterie à plat. Ce sont des paroles, mais la puissance ne sera pas là. Tu as besoin d'adorer. Ne perds pas ton temps. C'est celui qui n'adore pas qui perd son temps. Bien souvent, on dit, ah oui, on perd notre temps à adorer. Mon ami, c'est le contraire. Tu n'as rien compris. C'est en adorant qu'on gagne du temps. Amen. Qu'on charge nos batteries. Alléluia. On les charge. Dans la louange, dans l'adoration, on charge. Et après, quand on part, on est rempli. Lorsque nous partons pour nos campagnes d'évangélisation. Vous avez vu le film hier soir avec tous ces miracles. Les aveugles qui voient, les sourds qui entendent, les paralytiques qui marchent. Certaines personnes pensent qu'en voyant cela, c'est tout facile. Détrompez-vous. Il y a un prix à payer.
Amen.
Nous passons toute la journée à méditer la parole, à prier et à louer le Seigneur
dans notre chambre.
Nous ne passons pas notre temps pour aller visiter les beautés du paysage. C'est après la campagne, quand nous avons tout fini, alors après, il y a un petit moment de repos et de détente. Là, on peut aller se promener un petit peu. Mais pendant la campagne, il n'en est pas question.
Amen. Oui.
Il n'en est pas question. Nous sommes là pour Dieu. Et nous devons faire les choses sérieusement.
Amen.
Adorateur.
Alléluia.
C'est quand j'ai compris ce message que mon ministère a changé.
Alléluia.
Complètement.
Amen.
Veux-tu avoir ce sentiment de la présence de Dieu dans ta vie? Adore davantage. Adore. Pas seulement le dimanche. Adore. Utilise ces moments qui sont là, précieux. Adore. Adore. De tout ton cœur. Tu ne seras pas la même personne, c'est impossible. Et ils l'ont adoré. Ils ont compris quelque chose. Maintenant, il s'en va. Des adorateurs sont là. Et dans cette présence, ils vont vivre la gloire de Dieu, la présence de Dieu, le réconfort de Dieu, le renouvellement de Dieu. Nous en avons besoin. Besoin plus que jamais. Un adorateur. Cinquième instrument, être un adorateur avant d'être un serviteur. Le sixième instrument, ils retournèrent à Jérusalem avec une grande joie. C'est la joie de le servir. Sixième instrument, servez l'Éternel
avec joie.
Avec une grande joie, ils sont pas. Oui, on a vu un petit peu avant les disciples, vraiment embarrassés, déprimés, découragés, un cœur partagé. Voilà, et ceux d'Emmaüs, ils étaient là dans leurs idées. Nous pensions que c'est fini tout ça, c'est fini. Il y a un changement radical. La dépression a été changée en compression. Alléluia. En compression, la joie est là maintenant. La joie vient d'où, mes amis? La joie que nous avons, ce n'est pas une joie factice. Allez, réjouissons-nous. Ce n'est pas une méthode couée, celle-là. La Bible dit, réjouissez-vous dans le Seigneur. Ce n'est pas la méthode couée. Allez, vas-y. Allez, sois joyeux. Je suis content. Ça, c'est pas du tout ce que la Bible dit. C'est pas ça. La joie du Seigneur vient de notre communion avec lui.
Amen.
De sa présence en nous.
Amen.
Et c'est une joie spontanée. C'est comme un fleuve qui coule. Il n'y a rien de forcé. C'est un fleuve qui coule. Amen. La joie de le connaître. La joie de le faire connaître. Oh, quel bonheur de le connaître. L'ami qui ne saurait changer, de l'avoir ici-bas pour maître, pour défenseur et pour berger. Alléluia. Et ils partirent avec une grande joie. Ils n'ont pas dit, hein, fait que ça, maintenant, on est tout seul. Tout seul, c'est fichu, Jésus n'est plus là. Oh, maintenant, qu'est-ce qui va se passer? C'est fini. Jésus a bien fait son travail. Amen. Amen. Il les a bien forgés, formés, enseignés. Ils repartent maintenant à Jérusalem, dans le temple. Ils louent Dieu. Amen. Ils vont aller recevoir le Saint-Esprit et ils seront invincibles.
Amen.
Plus rien ne les arrêtera.
Amen.
La joie est une force aussi et un instrument de Dieu dans notre vie. Si nous devons servir le Seigneur, mes amis, servons-le avec joie. Au début, quand Dieu m'appelait à son ministère, j'ai dit, Seigneur, je ne suis rien du tout, rien du tout. J'ai rien, j'ai aucun bagage, je suis rien. Mon certificat d'études, c'est tout, à peine encore. À peine, parce que le jour du certificat d'études, j'ai dû regarder un petit peu sur... Je ne me souviens plus exactement, mais je ne sais pas si c'était tout juste, quoi. Alors c'était pour le CAP de comptable. Je l'ai réussi, mais celui qui était devant moi, je l'ai gratté l'épaule un petit peu. J'ai dit, montre-moi un tout petit peu ça, s'il te plaît, juste moi. Et encore, c'est comme ça que j'ai réussi. Rien du tout, absolument rien. Et j'ai dit, Seigneur, si je veux te servir, c'est avec joie. Avec joie. Tu es un grand Dieu. Ce sera un déshonneur de te servir sans joie. Un déshonneur. Je veux te servir avec joie. Si tu veux servir ton Dieu avec joie, ton Dieu t'utilisera. Alléluia. Car Dieu nous rend joyeux. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de larmes, de souffrances, d'épreuves. Certainement pas. Mais il y a une joie profonde que le monde ne peut pas nous enlever, que le diable ne peut pas nous enlever aussi. Cette joie vient de Dieu et personne ne peut nous la ravir. Alléluia. Elle vient de la communion avec Dieu et de la présence avec Dieu. Sois joyeux dans ta foi. Sois joyeux. Ne reste pas continuellement dans la dépression. Réjouis-toi dans le Seigneur.
Amen.
Et ce fait-là sera un témoignage. N'est-ce pas vrai? Il y a tant de gens tristes aussi ici-bas que c'est vraiment une exception bientôt de voir des gens joyeux. N'est-ce pas vrai? Et même aller regarder, on dit ceux-là, il y a quelque chose qui ne va pas. Ils planent un petit peu, ceux-là. Ils planent un petit peu. Ils planent un petit peu. Mais il y a une vraie joie. Amen.
Amen.
Et qui est un témoignage. Et qui attire le regard.
Amen.
Je termine maintenant.
Alléluia.
Je termine.
Amen.
Terminons. Septièmement. On arrive à sept, hein, c'est ça? Oui, bien sûr. Septième instrument. Merveilleux. Celui-là, nous le trouvons un peu plus loin, c'est dans Actes 1-8. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Mes témoins. Alors le septième instrument est celui-ci. Nous devons toujours et en tout glorifier le Seigneur. Nous sommes ses témoins. Pas les témoins d'une église, d'une dénomination. Il y en a qui prêchent que leur église, leur dénomination. Dieu n'approuvera jamais cela. Le Saint-Esprit n'est pas là pour approuver une église ou une dénomination. Jamais. Vous serez mes témoins. Le Saint-Esprit est derrière la personne qui ne recherche qu'une chose, la gloire de Jésus. Qui ne désire qu'une chose, élever Jésus, refléter le Seigneur. Le Saint-Esprit a été donné pour exalter le Seigneur, nous conduire dans toute la vérité le concernant. Il est là, il a été donné pour nous révéler tout ce que Jésus possède, afin de nous le communiquer. Le Saint-Esprit ne glorifie qu'une seule personne, Jésus.
Amen.
Tu ne dois pas glorifier une dénomination et tu ne dois pas te glorifier toi-même. Combien de chrétiens sont tombés? Combien de pasteurs sont tombés parce qu'ils ont pris la gloire qui revenait à Dieu. Ils l'ont pris pour eux-mêmes. Nous ne pouvons pas jouer avec la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, c'est un fil de 100 000 volts. Celui qui touche à la gloire de Dieu sera électrocuté. Vous ne pouvez pas.
C'est vrai.
On ne touche pas à la gloire de Dieu.
C'est vrai.
Dieu ne donnera jamais sa gloire à un homme, ni son honneur aux idoles. C'est pourquoi continuellement, il nous brise. Nous passons par des chemins difficiles, qui que ce soit, prédicateur ou autre. C'est afin de nous garder toujours à ses pieds.
Merci.
Humble, lui donnant toujours toute la gloire. Dieu connaît nos cœurs qui s'enflent toujours facilement. Dès qu'il y a une bénédiction, nous prenons tout pour nous-mêmes, nous nous vantons. et nous attirons les regards sur nous-mêmes. Quand quelqu'un est rempli du Saint-Esprit, les regards doivent être fixés sur le Seigneur. Il pousse les regards à fixer vers et sur le Seigneur. Vous serez mes témoins. Réalisons bien cela. Nous partons maintenant. Nous parlons du Seigneur. Nous disons tout ce que le Seigneur a fait dans ma vie, dans notre vie. Tout le reste doit être mis de côté. Amen. Seul Jésus doit demeurer. Seul Jésus doit être exalté. La chair ne sert de rien. C'est l'Esprit qui vivifie. Ils ont bien compris cela, les apôtres et les premiers chrétiens. Ils ont glorifié Dieu. Et plus nous glorifions Dieu, plus Dieu nous utilisera. Car il n'y a rien de tel pour que Dieu arrête de bénir quelqu'un que lorsque cette personne s'enorgueillisse au fond de lui-même. Il signe son arrêt de mort, c'est terminé. Si tu veux que le Seigneur continuellement t'utilise, sois continuellement à ses pieds et donne-lui toujours toute la gloire.
Amen.
Amen. J'ai cette petite histoire qui me vient à l'idée maintenant. C'est l'histoire d'Hudson Taylor, vous savez, ce fameux missionnaire en Chine. Un jour, il était en Angleterre pour parler de la mission. Et celui qui dirigeait la réunion avait la tâche de présenter ce fameux missionnaire Hudson Taylor. Alors, il ne savait pas comment faire pour le présenter. Et puis, il s'avance devant la foule qui était là. Et il a dit, « Je vous présente maintenant le grand serviteur de Dieu, Hudson Taylor. » Et il s'est assis. Et lui s'est levé, il a tout de suite fait la correction. Et il a dit, « Je suis le petit serviteur d'un grand Dieu. » Je suis le petit serviteur d'un grand Dieu. Rien que dans ces paroles-là, vous voyez le secret de la bénédiction du ministère de cette personne. C'est là que vous voyez le secret du ministère. Mes amis, je termine maintenant. On a entendu beaucoup de choses. Que tout glorifie le Seigneur.
Amen, Seigneur. Alléluia.
Ne t'élève pas si Dieu t'utilise. Et ne te décourage pas si tu es abattu. Viens dans la présence du Seigneur. Commence à élever tes mains vers le Seigneur. Si tu es découragé, il t'encouragera, il te renouvellera, il te fortifiera. Amen.
Amen.
Utilise ces 7 instruments. Prends la résolution de ne jamais prendre la gloire de Dieu pour toi. Décide de le glorifier lui seul. Et tu verras ce que Dieu peut faire dans ta vie. Des choses merveilleuses. Tu seras étonné toi-même. Et tu le béniras éternellement. Car sa puissance s'accomplit dans notre faiblesse afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Voilà pourquoi Dieu permet qu'on ait ces sentiments de faiblesse, ces brisements, afin que toujours nous donnions la gloire à notre Sauveur. Qu'il en soit ainsi. Utilisons ces 7 instruments. C'est ce que les apôtres ont fait avec les autres disciples. Ils ont bien fait leur travail. Puissions-nous faire aussi le nôtre. Fidèles, obéissants, jusqu'à la mort. Il revient bientôt. Soyons prêts au service du Maître. Reflétons-le, glorifions-le, et que nous n'ayons pas à rougir lorsqu'il reviendra. Que nous n'ayons pas à rougir. Et la crainte de Dieu, et non pas la crainte des hommes. Ne sois pas influencé par l'homme. La crainte de l'homme tend un piège. La crainte de l'Éternel est notre protection. Alléluia. Ainsi, restons fidèles au Seigneur, le craignant de tout notre cœur. Et il nous bénira et nous rendra en bénédiction jusqu'à son prochain retour. Amen. Courbons-nous dans la prière.